Chapitre 27. Tiens, c'est ici. Sylvestre pointa la grande fenêtre du restaurant Fine Bouche à Clémence, qui opina avec bonne humeur. Depuis peu, Angèle avait renoncé à chaperonner les amoureux. « Je peux pas toujours vous suivre », avait-elle annoncé à Clémence, qui s'en était secrètement montrée ravie. « Assurez-vous de rester toujours en public et personne ne pourra vous accuser de vulgarité. » Le couple s'était donc rejoint devant l'imprimerie où travaillait Sylvestre, et lorsque Clémence avait aperçu son homme, belle silhouette élancée, chapeau de feutre brun et manteau de cuir style aviateur, elle avait compris qu'il était l'amour de sa vie. Devant la vitrine de l'établissement, le duo se plongea dans la lecture du menu affiché. « Ça semble savoureux, qu'est-ce que tu en penses ?» demanda Sylvestre en souriant franchement. « Oui, » murmura Clémence. La jeune femme avait l'impression que tous ses sens étaient en alerte. Depuis qu'elle avait réalisé à quel point leur relation dérangeait, chaque fois qu'un passant les croisait, elle tentait d'observer sa réaction. D'ailleurs, de l'autre côté de la rue, deux jeunes adultes s'étaient arrêtés et les fixaient de manière narquoise. Le corps tendu, les épaules relevées, Clémence attendait stoïquement les insultes qui ne manqueraient pas de fusée. Elle se rapprocha de Sylvestre, qui l'entoura sagement de son bras. « Alors, une bonne soupe suivie d'un plat de saucisses d'anguille, ça te dirait? Clémence, youhou! Tu m'écoutes? Viens, on rentre! » répondit la femme en plissant les yeux pour fixer les jeunes qui les toisaient en ricanant. Sylvestre constata enfin la tension qui habitait son ami, et il tourna un peu la tête pour voir ce qui la dérangeait autant. En voyant que le noir les regardait, les deux voyeurs prirent une pose plus belliqueuse avec les mains sur les hanches afin d'élargir leur carrure. Mais Sylvestre Ballant en avait vu d'autres, et plutôt que de se lancer dans une guerre de mots qui pouvait toujours se terminer en dispute, il souleva le bord de son chapeau pour saluer les jeunes. « Messieurs, bonne soirée. »« Bon, tu viens, Clémence ?» La jeune femme ouvrit les yeux bien grands en constatant l'effarement qui se lisait sur le visage des passants de l'autre côté de la route. Une légère pression dans le bas de son dos l'obligea à se mouvoir, et c'est avec un soupir de soulagement qu'elle pénétra dans le restaurant, suivie de Sylvestre. Mais comme si tout était mis en œuvre pour tester son amour, une femme courte sur pattes aux chignons gris plantés sur le dessus de la tête, histoire de se donner une illusion de grandeur, trottina vivement jusqu'à eux avec un air agité. Aussitôt, le cœur de Clémence se serra dans sa poitrine. Elle agrippa la main de Sylvestre et y planta ses ongles sans le réaliser. Anticipant la réaction de l'hôtesse en constatant qu'un noir venait d'entrer dans son établissement, la châtaine mordit frénétiquement sa lèvre supérieure sans même le réaliser. Son copain lui jeta un regard inquiet, puis elle reporta son attention sur la restauratrice. « Bonsoir, madame. »« Bonsoir. Nous aimerions une table pour deux personnes, s'il vous plaît. » L'espace de quelques secondes interminable pour Clémence, la femme les observa, puis elle tourna la tête vers le restaurant presque vide. Ensuite, elle fit un large sourire en pointant la salle. « Bien sûr, à vous de choisir votre place. J'ai craint un moment que vous veniez juste jeter un coup d'œil. Depuis hier, je vous dis pas la quantité de passants qui sont entrés seulement pour regarder. Vous verrez, mon mari sert les meilleurs plats en ville, je vous le promets. » Un soulagement infini envahit le corps de Clémence, qui eut envie d'enlacer la femme pour la remercier. Mais elle se retint quand même et choisit plutôt de lui offrir son sourire le plus étincelant. Simone et Madeleine ne s'étaient pas reparlé depuis la maladie de Philomène et l'intrusion presque forcée de la seconde dans la Maison Blanche. Pourtant, chacune de son côté regrettait de ne pas pouvoir partager ses impressions avec l'autre face au retour de Jacqueline au village. Avec les journées qui rallongeaient, le temps qui se radoucissait, il était presque inévitable que les jumelles se croisent au village. Sans l'avouer à quiconque, c'est ce qu'espérait Madeleine. Elle était tellement en manque de sa jumelle qu'elle préférait la voir même de loin, plutôt que de subir cette absence totale de contact à laquelle elle était astreinte. La mort d'Éloi, qui les avait séparés, resterait à jamais gravée dans la mémoire. Cependant, avec sa nouvelle grossesse et les besoins d'un bébé de 8 mois, Madeleine tentait de voir l'avenir avec optimisme. La veille de l'arrivée de sa sœur Clémence pour Pâques, la femme discutait de son menu avec Palmyre, tout en finissant de nouer ses cheveux sur sa nuque. « Je vais aller au magasin tantôt. Je veux gâter Clémence. Vous savez à quel point elle aime les galettes à la mélasse et la tarte au sirop d'érable? J'ai besoin de Saint-Doux. Voudrais-tu que je m'occupe du petit? » suggéra Palmyre après une légère hésitation. La vieille dame jeta un coup d'œil dubitatif sur son arrière-petit-fils empêtré dans son manteau, qui se tenait tranquille dans le coin du sofa. Madeleine éclata de rire en faisant un clin d'œil à sa grand-mère. « Pas question, grand-mémère, il gigote trop. Non, non, je vais le mettre dans son carrosse. La neige a bien fondu cette semaine et je vais me débrouiller comme une grande. Si les roues s'enfoncent, je prendrai le petit dans mes bras et je pousserai le carrosse d'une main, comme toutes les autres mères du village. » Palmyre coupa un bout de fil avec ses dents et répliqua sans lever les yeux de son ouvrage. « C'est vrai qu'il bouge pas mal, ton Arthur. Il faut le surveiller sans arrêt, ce petit-là. C'est fou comme ils peuvent faire des niaiseries dès qu'on leur tourne le... Oh, excuse-moi, ma fille, je parle sans réfléchir. » Madeleine secoua sa tête sans répondre, ses iris noisettes un peu humides. Palmyre semblait si malheureuse, assise devant sa machine, que la jeune femme s'approcha d'elle et l'entoura de ses bras. Par la fenêtre, la vue sur la baie remplit Madeleine d'espoir. Les eaux froides du fleuve accueilleraient bientôt les chaloupes et les barges qui se remettraient à voguer au gré des marées. Des nuages descendaient à la verticale au loin et s'accrochaient aux rochers percés. Fermant les yeux, la jeune eut envie de sentir l'air marin et d'entendre les ricanements moqueurs des mouettes. Elle avait hâte de recommencer à travailler sur la grave, même si sa nouvelle grossesse lui nuirait à la fin de la saison. Émile Pelletier avait promis de revenir les aider lorsque Freddy l'avait contacté au mois de janvier. La femme inspira profondément, déposa un baiser sur le dessus de la tête blanche et murmura « Je vais bien, grand-mère, inquiétez-vous pas. La vie doit continuer. Bon, je vous laisse. Oublie pas mon fil rouge, m'a dit, s'il te plaît. Promis. » La femme enfila son imperméable acheté à la fin de l'été précédent et grimaça en constatant qu'il fermait tout juste. Cette idée aussi de l'acheter ceinturée, elle enfouit ses cheveux bruns dans son béret et agrippa son fils, raide comme une momie dans sa combinaison doublée. « Allez hop, monsieur Arthur, allons faire un tour au magasin. » En sortant sur le côté de la maison, Madeleine envoya la main à Freddy, qui travaillait sur le toit de la remise. « Je me demande bien ce qu'il fait là, » marmonna la femme en faisant de gros yeux rieurs à Arthur. « Je pense qu'il a juste besoin de bouger ton papa. » Il est toujours comme ça à la fin de l'hiver. Heureusement que la saison recommence bientôt, hein, mon gars? En se déplaçant vers le rang sauriole, la femme inspira profondément, le nez dans les airs. Que ça sent bon! La température douce amenait la plupart des voisins à sortir de la maison. L'hiver avait été rude pour la plupart des villageois, qui raclaient le fond des tiroirs pour pouvoir se procurer de la nourriture. Tous avaient hâte à l'ouverture de la pêche, qui permettrait aux familles de remettre un peu de beurre sur leur pain. Madeleine leva la main pour saluer Lucienne, qui balayait la neige sur son balcon avant, comme chaque printemps. Son époux avait coutume de s'obstiner avec elle tous les mois d'avril en lui mettant une pelle entre les mains. « Personne passe le balai sur la neige, voyons donc, Lucienne! » s'emportait-il alors. « Moi, oui! » répliquait la replette. « Ça va bien mieux! » « Comment ça peut aller mieux? C'est pas de la poussière, c'est de l'eau gelée! » ripostait Bourbeau. Mais peu importe la contestation de son mari, Lucienne balayait sans se préoccuper des commentaires des autres villageois. En réponse à Madeleine, elle leva bien haut son instrument en criant « Tu t'en vas où, Maddy? » « Au magasin. » « Oh, m'achèterais-tu une boîte de thé? Dis à Gaston de mettre ça sur ma note. » Madeleine acquiesça en promettant de lui rapporter la denrée dès son retour. C'est en chantonnant qu'elle se mit à trotter dans le chemin. La couche de neige était encore assez épaisse pour permettre au landau de bien rouler. Les oiseaux qui y pépiaient gaiement accompagnaient la mère et son fils dans leur promenade. De temps en temps, la femme saluait des ménagères, mais elle ne s'arrêtait pas pour jaser comme elle le faisait auparavant. Malgré son état d'esprit plus serein, il n'en demeurait pas moins que la curiosité des villageois restait bien évidente. Dans la plupart des cas, on évitait le sujet des lois ou de Simone, mais Madeleine devinait toujours une envie de savoir. Si sa jumelle avait pardonné, si elle-même s'était pardonnée. Alors elle marchait d'un pas alerte, malgré son ventre déjà gros. « Ça n'a pas d'allure, » avait-elle dit à Freddy le matin en enfilant sa jupe. « Je peux déjà plus la boutonner. C'est normal, je te rappelle que tu portes mon petit. » « Je sais bien, Freddy, mais je suis bien plus grosse que pour Arthur, garde ça. » Son mari s'était approché, l'œil gourmand devant la poitrine volumineuse comprimée dans un soutien-gorge à peine couvrant. Le désir au fond du regard, il avait enlacé sa femme pour l'embrasser dans le cou. Ses doigts avaient monté jusqu'à la tache de la brassière et d'une main leste l'avait détaché. « Freddy, » avait chuchoté son épouse, « qu'est-ce que tu fais là? » « Je me gâte. » avait répondu l'homme en enfouissant son visage entre les deux gros seins aux aréoles très foncées. Madeleine avait fermé ses lèvres bien fort pour éviter que son gémissement n'alerte de nouveau sa grand-mère. Depuis le matin où Palmyre leur avait laissé entendre qu'ils avaient été peu discrets, la jeune femme tentait d'éviter les rapprochements lorsque la vieille femme était éveillée. Mais aujourd'hui, elle n'avait pas réussi à dissuader son époux, qui avait continué à la déshabiller sans se préoccuper de ses réticences. En se remémorant la jouissance qui l'avait envahie lorsque Freddy s'était glissé en elle, Madeleine jeta des regards autour, comme si les voisins pouvaient lire dans ses pensées, même à 100 pieds. Quand elle tourna sur le rang principal, la femme retint un mouvement de dépit en constatant que son frère s'avançait dans sa direction. « Oh zut, j'ai pas le goût d'un sermon », pensa-t-elle en plaquant un sourire sur son visage. Jacqueline marchait d'un pas vif, le corps un peu penché vers l'avant. Il glissa le sac brun du magasin sous son manteau noir et s'arrêta près de sa sœur. « Bonjour, Maddy. Allô, Jacqueline. T'es allée faire des commissions? » « Oui. » Madeleine jeta un regard curieux sur la bosse sous le manteau et demanda « Qu'est-ce que t'as acheté? » « Très cher, la curiosité est un bien vilain défaut. » Madeleine rougit en ayant envie de se donner un coup de pied dans l'arrière-train. Désireuse d'éviter les habituelles remontrances de son frère, elle poussa le landau afin de poursuivre son chemin. Mais Jacqueline l'arrêta d'une main. « Dis-moi donc, j'espère que t'as pas l'intention d'aller te pavaner sur la grave pendant l'été. » « Pardon? » Le curé pointa le ventre évident de Madeleine et poursuivit. « Je pense pas que ce soit une bonne idée d'étaler ton état. C'est ça que je veux dire. » « Voyons, Jacqueline, depuis toujours, les femmes de Lens ont donné un coup de main aux vigneaux, enceintes ou non, comme si nos hommes pouvaient se passer de nous. J'imagine que t'as oublié? » Madeleine s'aperçut qu'Arthur avait ouvert les yeux au son de la voix forte de son oncle. Elle se pencha pour l'asseoir dans le carrosse et continua à parler, sans regarder Jacqueline. « Freddy a besoin de toute l'aide possible. L'année dernière, j'étais à la fin de ma grossesse et c'est certain que je pouvais pas participer aux tâches, mais je compte bien me reprendre cet été. » « Ah bon! » Le ton de la voix clairement désapprobateur de son frère fit soupirer discrètement Madeleine. Elle n'eut pas le choix d'attendre la suite. Simone, elle, se serait empressée de s'éclipser sous un prétexte quelconque, mais elle n'avait pas ce courage. Alors la femme s'arma de patience pendant que Jacqueline lui fit part de ses pensées. Laissant son regard errer derrière son frère, Madeleine hocha la tête sans écouter vraiment les paroles qu'il prononçait. Et quand son aîné s'aperçut qu'il n'aurait pas l'influence souhaitée sur sa sœur, sa bouche se serra sévèrement et il prit congé. « Je vais prier pour toi, ma sœur. Que Dieu te garde. » D'un mouvement théâtral, le curé s'éloigna dans la côte du Sureau, tandis que Madeleine soupirait de soulagement. « Bon débarras. » murmura-t-elle en faisant un clin d'œil à Arthur, qui avait agrippé le bord du carrosse et sautillait sur ses fesses. Madeleine poursuivit sa route jusqu'au magasin sans faire aucune autre rencontre. Elle fut satisfaite en pénétrant dans le commerce de constater qu'elle n'aurait pas à cacher son ventre à sa jumelle. Le mois précédent, elle avait demandé à Lucienne d'aviser Simone de cette nouvelle grossesse. « Je le ferais bien moi-même, mais comme tu le sais, Simone ne me parle plus. » « Penses-tu que tu pourrais aller lui annoncer? » La voisine avait accepté sans réfléchir, d'abord heureuse de cette confiance. Mais au moment d'en faire l'annonce à Simone, la pauvre Lucienne avait senti son menton trembloter. « Ta sœur m'a demandé... Je suis pas intéressée, Lucienne. On parlera pas d'elle. » Malgré la froideur de Simone, la sexagénaire avait insisté en lui prenant la main. « Elle voudrait juste que tu saches qu'elle est encore enceinte. » Simone avait cessé de bouger et s'était mise à fixer le mur devant elle sans parler. Puis, au bout de ce qui parut une éternité à Lucienne, Elle avait dit d'une voix blanche, « Correct, je le sais. On va parler d'autre chose maintenant. » Manquant de courage, Lucienne n'avait pas insisté. De toute manière, comme elle l'avait expliqué à Bourbeau le soir au souper, qu'est-ce qu'elle aurait pu dire pour consoler une femme qui avait perdu sa possibilité d'enfanter?